Bienvenue les amis, c'est Olivier, on est en direct du vestiaire, on s'en part pour une bonne heure ensemble de plaisir sportif. J'espère que vous allez bien, c'est la semaine de relâche et pour nous, on n'est pas en mode relâche du tout, on est ensemble avec vous. C'est la semaine de relâche, c'est quoi? C'est important, ça permet d'être ensemble, ça permet d'être en famille. Donc à tous ceux qui profitent en ce moment en famille de nous écouter en famille, chez vous, quelque part en Ontario, quelque part ailleurs, dans l'internet, parce que l'internet nous permet d'écouter un peu tout ça un peu partout. Bonjour à vous, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Et puisqu'on parle de la famille, j'aimerais faire une toute petite dédicace à Nathalie qui nous écoute, ou si elle ne nous écoute pas, elle nous écoutera plus tard en rediffusion sur Spotify. Nathalie, j'ai une grosse pensée pour toi et ta famille. Énorme bisous à toi. Ok les amis, on est en direct, on a plein de sujets à aborder. Je vais vous donner le programme. Le programme, c'est le suivant. Toronto FC, on était au match, il faut qu'on en parle les amis, il faut qu'on en parle parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. C'était le match d'ouverture, on va en parler ensemble. Il y a le Toronto Maple Leafs, on va en parler ensemble, et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la planète sportive avec de la boxe, de l'UFC, de la Ligue des Champions. Bah, bref, on a un sujet intéressant à couvrir et on va le faire ensemble, on est ensemble pour la prochaine heure. Ok, c'est parti. Alors les amis, Choc FM était au rendez-vous. Nous étions tous derrière le Toronto FC, bizarrement. Ouais, ça fait bizarre de le dire qu'on était tous derrière le Toronto FC. Mais le fait est, c'est qu'on était vraiment tous derrière le Toronto FC pour le match d'ouverture chez nous à la maison. À la maison, c'est le retour du début de saison. On arrive après une saison un peu ratée l'année dernière. Hein, on en a parlé régulièrement. Donc on avait des attentes sans réellement avoir d'attentes. C'est ça le côté un petit peu ambigu de la chose. On avait des attentes sans réellement avoir d'attentes. C'est intéressant. Hein? Donc écoutez, en tout cas, on y était. Voilà un petit peu l'ambiance, je vais essayer de vous la décrire. On est en radio, et même si ça s'est passé il y a quelques jours, je vais quand même essayer de vous le décrire. Donc on se rencontre, on met le réveil déjà. On met le réveil parce que c'est important de pas louper le match. On prend le petit déjeuner entre amis ou alors on parle, on regarde un petit peu les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la composition, c'est quoi les joueurs. Bref, on commence à ressortir un petit peu le maillot. Est-ce qu'on va le brosser un petit peu le maillot? On sort la casquette, on regarde la météo, on se rend compte qu'il pleut. Donc tout ça, en fait, pour préparer un retour à la maison au BMO Field le jour de match. Donc, c'est pas mal parce qu'au final, on démarre le match, on a peu ou pas d'attente, et puis on veut aller chercher la victoire, et notamment chercher la victoire chez nous. Donc, on met le maillot, on regarde un peu la météo, il pleut, on met des bonnes chaussures, on met peut-être un manteau de pluie, on met ou un casquette ou un bonnet. On ne sait pas trop. Bref, en tout cas, on met les couleurs du club et on avance. Puis, on se rend un peu vers le stade. Et là, en allant vers le stade, il y a des gens comme nous, il y a des gens qui nous ressemblent, il y a des gens qui ont mis les écharpes, il y en a qui ont mis les maillots, il y en a qui ont pris des couvertures parce qu'il va faire pas super chaud. Bref, tout ça pour dire que plus on se rapproche du stade, plus on sent qu'on arrive sur un événement un peu colossal et un peu balèze chez nos amis de Toronto. En tout cas, au BMO. Et l'ambiance, moi, j'ai parlé avec plein de gens sur le bord de stade. Il y avait des attentes. Il y avait des attentes en disant, ouais, bon, bah, en fait, vu ce qui s'est passé l'année dernière, ça peut pas être pire. Voilà, ça, je l'ai entendu probablement plein de fois. Puis, ce que j'ai aussi entendu, on dit, moi, ça a été, ouais, j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer parce que il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles têtes, il y a un nouveau coach. Bref, tout ça, est-ce que la cuisine qui s'est passée, est-ce que les cuisiniers ont fait ce qu'il fallait pour que la mayonnaise, comme on dit, la mayonnaise puisse prendre au sein de cette équipe, notamment parce qu'on est chez nous, on est devant nos partisans, on est devant les fans, donc il y a quand même une ambiance de 12e homme. Donc les fans étaient à dire, bah, moi je fais confiance, bon c'est sûr qu'on n'a pas été contents ces dernières saisons, mais il y a eu un changement, faisons confiance, donc c'était propice. Puis c'était propice aussi à y aller en famille parce que le match bizarrement était pour la première fois était en début d'après-midi et ça va être très probablement le seul cas de l'année, donc c'était en début d'après-midi, donc à 14h lors du démarrage du match. Donc c'est intéressant, donc il y avait les fans, il y avait les familles, il y avait des enfants, bref, l'effervescence d'un jour de match, de premier jour de match à la maison. C'était quelque chose d'extraordinaire. Puis le feu d'artifice qui avait été prévu, l'annonce des joueurs quand on rentre sur le terrain. Donc on s'installe, on a été chercher sa boisson chaude ou sa boisson fraîche, on s'installe au bord de terrain, on parle, on regarde le téléphone, on regarde la composition, on voit la composition est à peu près annoncée en préambule du match. Puis l'annonce des joueurs, là il y a une tradition, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'essaie de vous faire vivre un petit peu tout ça de l'intérieur, comme moi je l'ai vécu, l'annonce des joueurs et l'annonce de la composition. Donc là, il y a une tradition qui veut que quand on annonce la composition, la personne qui est au micro dans le stade va donner le prénom et les fans et les partisans qui seront au stade vont donner le nom de famille. Et là, on se rend compte un petit peu à l'applaudimètre ou un petit peu aux cordes vocales ou finalement au bruit que les fans peuvent faire si il va y avoir une grosse ambiance ou pas une grosse ambiance. Si les fans sont chauds, si les fans sont prêts, quand je dis chaud, il fallait être chaud parce qu'il faisait pas chaud ce jour-là, il pleuvait. En tout cas, il a plu toute la journée. On a eu de la chance puisque ça s'est un petit peu apaisé sur la suite. Mais bref, les fans donnaient le nom de leurs joueurs préférés. Alors évidemment, les gros stars, hein, on les connaît, hein, Fede et puis Lorenzo. Mais il y a des petites fans qui ont pu avoir la suite et apprécier finalement que leur réputation au sein du club était soit en croissance, soit après ce match-là, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va y avoir du monde pour applaudir. Donc voilà, ça c'est un petit peu la tradition d'avant-match, et puis le coup de sifflet, ça y est, on est parti, c'est la première période qui arrive, on est là, on est en place. Je rappelle que donc le Toronto FC, 15e de l'année dernière, jouait contre Charlotte, 9e de l'année dernière, donc en réalité, bon, des clubs, on va dire, de milieu de tableau ou de bas de tableau, mais qui ont tout à prouver, tout à faire sur cette année. Et puis, bonheur au vainqueur, puisqu'on se rappelle quand même que prendre les points, c'est important, et prendre 3 points, c'est encore plus important. Donc, aujourd'hui, on va couper le secret. Toronto a gagné, vous l'avez déjà probablement vu, je vais pas faire ça. Le match, au-delà des 90 minutes, ça a été un but par 1-0, but de Lorenzo Insigne, notre joueur désigné, à la 80e. Bon. Le fait est, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour plein de raisons. Et on va parler du bon, du mauvais, du moins mauvais, ou du plus mauvais, ou du encore plus mauvais dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le Toronto FC est en 5e position et avec 7 points. 7 points, et ensuite, c'est à la différence de but que ça se joue, parce qu'on est tous au même nombre de points dans la Ligue, incluant le Miami de Lionel Messi. Donc l'Inter Miami est lui premier au classement, avec, je ne sais pas, quelques petites déroutes. Je pense qu'il aurait aimé avoir plus de points, mais déjà, belle victoire de Montréal à Montréal. Merci à nos voisins d'avoir permis à Madrid de faire cette défaite. Et en tout cas, merci à eux aussi, parce que le Toronto FC se retrouve également avec 7 points. Bon, alors, ça, c'est un petit peu pour mettre un petit peu la table. OK ? Donc, la table, la première période... Bon, j'étais au stade, je vais vous dire un secret, mais le répéter à personne. Par contre, la première période, pour moi, ça a été relativement ennuyeux. Ennuyeux dans le sens qu'on avait l'impression que les joueurs commençaient à chercher les automatismes, la défensive de Charlotte ne voulait pas bouger, la stratégie du coach Herdman disait qu'il fallait avancer sans réellement trop prendre de risques, être quand même cohérent par rapport aux attentes. Néanmoins, voilà, c'est ça, c'est que moi j'ai trouvé ça à la période très ennuyeuse. En tout cas, il y a eu des éléments de satisfaction, moi je vais vous en parler, des éléments de satisfaction, mais éléments de satisfaction, en tout cas de la première période. En première période, la recrue, Gomis, le francophone, Nixon Gomis, pour moi, a été extrêmement solide. J'avais énormément d'attentes. Probablement en tant que francophone, deux, en étant français, et donc j'avais des attentes par rapport à sa prestation. Quand je dis que j'avais des attentes par rapport à sa prestation, c'est est-il au niveau ? Alors certes, il jouait en Angleterre, il a probablement le niveau, mais on rentre en MLS, il est titulaire d'ores et déjà, titulaire à la maison pour le premier match, tu te rates t'as tous les fans et tous les partisans s'en souvenir toute ta vie. Puis tu fais un super match, t'as tous les supporters et tous les partisans qui vont s'en souvenir toute leur vie également. Donc ça, c'est plutôt une positive dans le sens que si tu fais quelque chose et si tu fais les choses bien, on va s'en souvenir. Et moi personnellement, c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé énormément solide, serein par rapport à la défense qu'il avait, avec, en tout cas la connexion qu'il avait avec sa défensive et avec son gardien. Alors, petit mot sur le gardien. Le gardien de but, Sean, qui est le gardien de but titulaire, était très incertain à l'heure du match, et à la composition, on s'est rendu compte que malheureusement, il n'était plus qu'incertain, il était absent. Donc il a été remplacé par Adam, et ça s'est très très bien passé. Et j'ai trouvé d'ailleurs que le gardien de but remplaçant, techniquement remplaçant, a fait ce qu'il fallait. Il a livré son match. Alors ça, c'est un petit peu mon ressenti de la première période. Et puis je voudrais peut-être faire une mention spéciale au capitaine Jonathan Osorio, qui ce jour-là arrive à la maison et fête son 300e match en MLS. C'est une grosse grosse prestation pour notre petit Canadien, 11 ans qu'il joue à haut niveau, ou en tout cas au niveau professionnel. Ça avait démarré, je vais faire appel à votre mémoire pour les anciens, et puis pour les moins anciens, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Il a remplacé Terry Dunfield, qui aujourd'hui, pour la petite histoire, il est assistant coach de John Henman, pour vous donner un petit peu l'ordre du jour. C'est fou, hein ? Il y a 11 ans, Terry Dunfield jouait pour le Toronto FC, et 11 ans plus tard, il est assistant coach de Henman, et c'est Osorio qui est capitaine. Donc Osorio, en quelques statistiques, c'est 344 apparitions en MLS, c'est 62 buts, il est troisième sur toute l'histoire du club. Le premier, c'est Jovinko, le troisième, c'est Josie. Et puis, en termes de passes décisives, Ozo est deuxième. Donc Ozo est deuxième d'un point de vue global, puisque le premier, c'est Jovinko avec 52 et Ozo avec 50. Donc il y a très forte chance que Ozo devienne le meilleur passeur de l'histoire du club dans les semaines à venir. Donc à suivre. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça c'est pour moi, c'est ce qui s'est bien passé en première période. En deuxième période, la chose que je vais retenir, c'est le but. Parce que jusqu'à la 80e minute, il ne se passe pas grand-chose, et je vais en reparler dans ce que j'ai aimé d'une façon générale, dans ce que j'ai moins aimé et pas du tout aimé. Je vais détailler. Alors, dans ce que j'ai aimé, dans ce que j'ai un peu aimé, c'est un peu le bon, le brut et le truand, si vous voulez, mais ce que j'ai adoré, c'est que j'ai eu l'impression qu'on était une équipe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense qu'on est en train de construire quelque chose. Et j'en avais parlé lors de mes précédentes émissions, en parlant de la mentalité du coach, le fait qu'il soit nouveau, qu'il avait coaché à haut niveau, dans le sens qu'il avait coaché les équipes nationales au niveau international. C'est compliqué à dire ça pour un mercredi soir. Mais il avait coaché donc l'équipe Canada féminine et masculine. Donc, il a quand même une perception du football. Ce mec-là connaît le football. Donc c'est important qu'il vienne avec ce qu'il connaît. Il insuffle cette mentalité avec, où on appuyait sur le bouton, on efface et on recommence. C'est exactement ce qu'il faut faire, et c'est ce sur quoi il y a travaillé depuis les matchs de pré-saison et aujourd'hui. Il vient avec une culture. Il vient avec une culture où on peut, moi c'est ce que j'ai vu en tout cas, on peut voir une connexion entre les uns et les autres, mais surtout, et encore mieux, une connexion pour les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on est en équipe. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais on voit le coach dire « Ozo, celle-là, elle est pour toi ». Et Ozo, en plein milieu de la conférence où il se dit « Les gars, on y va, on est ensemble, on gagne ensemble et on fait les choses ensemble », Ozo, il a eu son rôle de capitaine et c'est le relais du coach. Et moi, j'ai trouvé, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai adoré voir cette connexion entre le coach et le capitaine, mais aussi, moi j'ai adoré voir le coach s'agiter pendant tout le match. C'est fou, mais les joueurs, donc évidemment tu cours, tu vas chercher le ballon, tu mets en place les tactiques, tu vas défendre, tu vas attaquer, mais le coach, il courait, son niveau, j'aurais aimé son Apple Watch pour voir un petit peu à quel niveau son cœur il pouvait battre, mais il était très très agité. Il sautait, il replaçait, il haranguait un petit peu ses joueurs, il regardait son staff, bref, il était connecté, il était à fond dans l'analyse, il était à fond dans le dans le supporterisme, lui aussi, il supportait son équipe. Moi, j'ai adoré voir ça, puisque, en fait, mais d'ailleurs, même à la télé, j'avais cette conversation avec notre invité de la semaine dernière, qui s'appelle Rodolphe, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Le coach vivait le match. Il vibrait avec les partisans, mais également avec les joueurs. Ce que j'ai aimé, moi aussi, c'est les anciens. Les anciens comme Ozo, mais pas que lui, les anciens qui sont aussi dans l'écurie. Alors, on peut parler des joueurs désignés qui sont anciens également, mais moi, j'ai aimé la connexion entre les anciens et les nouveaux. Donc, Ozo qui prenne son rôle de capitaine et puis qui y regarde un petit peu et qui arrive à pouvoir motiver les nouveaux. Je rappelle quand même que les nouveaux, il y en a quelques-uns. Il y a l'international irlandais Long, il y a le français, donc Gomis, on en a parlé. Puis, il y a la nouvelle pépite qui nous vient de Newcastle, Longstaff. Nos joueurs désignés avec Fédé, avec Insigne, le gardien qui avait un rôle à jouer, mais le gardien qui prenait la place du gardien numéro 1. Donc tout ça, pour moi, ça, c'est hyper important. Donc la connexion, tout a fonctionné. Mais alors en plus, parlons du golazo, le goal de Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne qui nous marque un but, mais qui vient d'une planète je ne sais d'où. 80e minute, il décale, il est sur le côté, il décale, il repique au centre, grosse frappe, et il va nettoyer la lucarne. Le gardien n'a rien pu faire, la défense a été spectatrice ou spectateur de Lorenzo. Il nous marque un golazo qui vient de nulle part. Et alors, ce que j'ai absolument suradoré, c'est la célébration. La célébration, on voit Lorenzo Insigne qui court à toute vitesse dans les bras de John Herdman, donc dans les bras du coach, pour célébrer avec lui. D'ailleurs, je vous donne une petite anecdote, mais une anecdote de vestiaire ou alors de salle de conférence. On était en salle de conférence pour recueillir les propos du coach et du capitaine. Donc le coach et le capitaine sont venus à la table. Il y a d'ailleurs eu le gardien qui est venu également aussi en salle de conférence. Mais la petite anecdote que je vais vous donner par rapport à la conférence de presse, le coach disait: c'est cool de le voir parce que j'apprends de lui, j'ai appris de lui. C'est quand même, Lorenzo, c'est quand même un international italien. Il est là depuis un petit moment. Il a une connaissance du football. Il a des attentes par rapport au football qu'on doit jouer. Quand il saute et quand il court vers moi, il a dit: je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si lourd. Vous vous rendez compte? Donc, c'est de là. Il a d'ailleurs même dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le coach avait déclaré avant le match qu'il recevait plus de textos que de sa femme. Donc ils ont une relation, les deux, qui sont intéressantes, parce que les deux, je pense que si ça marche, la connexion entre Lorenzo, qui avait dit, et je l'avais critiqué, et je fais mon mea culpa, parce que j'avais dit, je ne suis pas forcément convaincu qu'il faut qu'on dise que Lorenzo Insigne est la Ferrari. Ça voudrait dire que quoi? C'est-à-dire que les autres, ils ne sont pas au niveau. Mais il a joué 90 minutes, Lorenzo Insigne. On va en parler de ce que je n'ai pas aimé chez Lorenzo Insigne. Mais quand il a marqué, j'ai aimé l'attitude. L'attitude d'un joueur impliqué, l'attitude d'un joueur impliqué avec le staff et avec le coach, mais surtout impliqué avec le public. On se rappelle qu'en fin de saison dernière, il avait eu quelques mots et ça avait été pris en caméra et ça avait été filmé. Il avait eu des mots avec un partisan, avec quelques noms d'oiseaux qui avaient été lâchés un peu à gauche à droite. Donc, ce que j'ai aimé, bref, c'est l'attitude de Lorenzo. Il montre le maillot, il montre l'écusson, il célèbre avec les fans, il harangue la foule. Donc ça, pour moi, c'est un joueur qui est concerné. Et une chose que j'ai adoré aussi de ma perception à moi, c'est les fans. Les fans et les partisans, bravo à vous les gars. Les gars et les filles, vous êtes vraiment le 12e homme. Vous avez été le 12e homme. J'ai des vidéos qui montrent les fans et ça montre ça balance les drapeaux, ça joue avec les chants, ça chante dans tous les sens, ça célèbre. Ça n'a pas arrêté. Donc les fans, certes, probablement déçus de la prestation de l'année dernière, et puis d'ailleurs, c'est pas pour autant que les fans sont convaincus que parce que on a fait un bon match contre Charlotte, ça nous ouvre les portes. Mais en tout cas, l'espoir fait vivre, comme on dit, et l'espoir est de mise. Mais néanmoins, plus que l'espoir, j'ai adoré moi de voir un peu les partisans qui ont célébré tout le temps. Et Ils ont été contents et pas contents sur un certain nombre de sujets dans le match. On va y revenir dans vraiment quelques secondes. Comme moi aussi, étant un partisan de la ville, de tous les sports de Toronto, dans la ville de Toronto, j'avais des attentes qui étaient de dire je voudrais voir une équipe. Et comme je le disais, je l'ai vu, j'ai vu une mentalité, j'ai vu un coach. Et je dois avouer qu'en conférence de presse, le coach Herdman, selon moi j'ai adoré le bonhomme. Je pense qu'il est humble, il connaît son football, il arrive avec le beaucoup d'humilité. Et quand je dis humilité, c'est même en conférence de presse, il arrive très calme, très serein. Il a gagné, il sait que c'est un des premiers matchs, on ne va pas s'enflammer non plus, mais il arrive, il donne une analyse qui est parfaite. On a respecté le plan de jeu. Il a remercié un certain nombre de joueurs. Je vous le donne ici. Il a remercié, premièrement, il a remercié Lorenzo. C'est là qu'il donne un petit peu son anecdote avec les textos et puis le fait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il lui saute dessus et avec le poids qu'il pouvait avoir. Et il a aussi remercié le gardien qui a fait au pied levé, qui avait remplacé Sean et qui avait dû faire son match. Faut pas se le cacher, il doit faire son match mentalement. Le match commence au moment où on lui dit, écoute, il jouera pas, tu vas être titulaire. Donc il a remercié. Il y a eu quelques phases de jeu un peu litigieuses, notamment on se rappelle qu'il y a eu l'assistance vidéo qui avait été réclamée pour un penalty qui, même de moi ou là où j'étais, ça se voyait qu'il n'y avait pas penalty. Alors vous allez me dire peut-être que parce que j'étais supporter de Toronto sur ce match, mais il y avait clairement pas penalty. Néanmoins, le gardien, il le touche pas, il est là, il reste sur son match, il se déconcentre pas, il fait les sorties, il fait ce qu'il faut, et donc le coach lui rend un petit peu hommage dans la conférence d'après-match, et il rend également hommage au petit nouveau Longstaff qui est rentré. Et je peux vous dire, donc il nous vient de Newcastle, je peux vous dire qu'à l'applaudimètre, les partisans attendent énormément, et il est déjà le chouchou probablement de tout le Bimo Field. Il est arrivé sur le terrain, il a été remplacé je pense à la 65e 70e minute, il a eu un petit, allez, 20-25 minutes de jeu. On voit que déjà qu'il apporte quelque chose au milieu de terrain, il tient le ballon, il vient chercher le ballon, il va demander, il vient provoquer, il vient apporter le surnombre dans le milieu de terrain ou même avec l'attaque. Donc il se projette vers l'avant. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien, et donc le coach a rendu hommage à tout ça. Donc à suivre. Oh, il a aussi rendu hommage à Federico Bernardeschi. Il a fait un match incroyable. C'est marrant parce que j'ai pas vu ce match-là de Federico. Si vous êtes d'accord avec moi, tenez-moi au courant. Instagram, hein, je rappelle, Olivier Debrejas, mon compte est ouvert. Ou alors sur le Instagram de Grand Toronto ou Choc FM. Moi, j'ai pas trouvé Fédé. Ou alors c'est parce qu'il avait plus ce côté blond sur les cheveux. Je l'ai moins vu sur le terrain. Mais je l'ai pas vu contribuer comme le coach l'a vu. Donc il a probablement, et j'ai peut-être moins fait attention à ça, et j'y ferai un peu plus attention la prochaine fois, mais il a travaillé sur du repli défensif, il a travaillé sur du travail de sable, vous savez, casser les lignes de passe et ce genre de choses. Donc bravo à notre équipe du Toronto FC. Je vais pas rentrer trop dans la technique, mais en tout cas pour vous faire vivre ce match là moi j'étais hyper content, et voilà ce que j'ai aimé. Ce que j'ai moins aimé en revanche, on va être très clair, ce que j'ai moins aimé, c'est la météo. Alors, Madame Météo, si tu nous écoutes, ok, un jour de pluie pour un match au BMO Field, quand aujourd'hui il fait 18-20 degrés, s'il te plaît, ok, Madame Météo, prends en compte que il peut faire froid, il peut faire chaud. Alors certes, on est en mars, on va pas non plus penser qu'il devrait faire 20 degrés d'ores et déjà en mars, mais la météo était un petit peu insolite. Donc il a plu tout le matin, ça s'est un petit peu arrêté. D'ailleurs, à la mi-temps, si vous avez pas vu ça, parce que c'est probablement pas passé en télévision ou même en radio, ils ont arrosé le terrain comme si c'était pas assez mouillé. Et j'entendais dans les coursives du stade deux Français qui disaient, mais pourquoi ils arrosent le terrain? Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ils arrosent le terrain. C'est parce qu'en fait, la balle, elle va plus vite. Ça augmente un petit peu le jeu. Donc, on est obligé d'être concentré. On est obligé d'être concentré sur les contrôles. On est obligé d'accélérer le jeu. Et la pluie nous permet ça. La pluie. L'eau permet ça. Donc, c'est très souvent que l'eau ou les terrains sont arrosés à la mi-temps. C'est pour accélérer le jeu. Donc, c'était intéressant de discuter avec ces deux Français, ces deux francophones qui étaient venus assister au match. Donc ça, c'est ce que j'ai moins aimé, la météo. Donc ça, c'était la petite blague. Mais ce que j'ai moins aimé vraiment, c'est la première période. Première période, pour moi, trop calme. Ou alors, c'était une grosse défense de Charlotte, et auquel cas, j'ai pas aimé la grosse défense de Charlotte. Mais j'ai pas aimé parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Et moi, je vais vous les passer en revue. La première, c'est qu'il y avait devant l'attaquant de Charlotte, c'est Copetti. Copetti, c'est le numéro 9. Il avait les cheveux blonds, lui aussi, décolorés. Il nous vient du Racing. C'est un Argentin. Et j'avoue, j'ai eu un petit peu la piqûre de l'Argentine quand moi-même je suis allé en Argentine pour regarder un match, et j'y suis allé voir le match du Racing. C'est un très très bon ami, très très proche à moi, qui m'avait conseillé d'aller voir cette équipe. Et puis on a pu avoir des billets par rapport à Boca Juniors ou alors River, qui c'est quasiment impossible si on n'a pas une carte de Socios. Donc j'avais été voir un match du Racing, et je l'avais en tête, Copetti, parce que c'était l'Argentin, et il venait du Racing, et c'était un poison. Ça a été un poison pour toute la défense. C'est pour ça que je ressouligne la prestation de Gomis, parce que non pas il a réussi, mais il a quand même réussi à éteindre les petites flèches que Copetti pouvait avoir, parce que Copetti a été un vrai poison. Donc j'ai pas aimé en fait qu'il soit autant un poison pour la défensive de Toronto, parce que c'est vraiment l'attaquant typique, un vrai numéro 9 qui va bouger entre les lignes, qui va chercher partir à la limite du hors-jeu, partir dans le dos, chercher à s'intercaler. Donc j'ai pas aimé ça, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à travailler sur ce genre d'attitude. Il y en aura d'autres, je pense notamment à Suarez de l'Inter de Miami, ou Messi, il y en aura d'autres. Donc ça, c'est à surveiller. Ce que j'ai pas aimé, c'est que notre gardien, il a été out. Donc il n'était pas là. Donc gardien numéro 1, pas là. Donc à surveiller sur le niveau blessure. Il y a des examens complémentaires. J'ai pas suivi où est-ce qu'on en est sur les examens complémentaires, mais donc à surveiller. Donc ça, j'ai pas aimé. Bon, j'ai parlé du golasso de Lorenzo Insigne, mais faut que je parle de l'attitude. Moi, j'ai pas aimé, Lorenzo, si tu nous écoutes, j'ai pas aimé quand tu marches. Tu marches et ça donne l'impression que t'es pas concerné par le travail défensif. Puis tes équipes, tu râles, l'attitude où tu vas aller crier sur l'arbitre, crier sur les joueurs, crier sur tes coéquipiers. Il a d'ailleurs pris un carton jaune parce qu'il est venu contester l'assistance vidéo auprès de l'arbitre. Donc en termes d'attitude, Lorenzo, s'il te plaît, arrête, t'as rien à prouver, faut surtout pas que t'aies cette attitude. Moi, j'ai pas aimé. Donc si tu veux, oui, je comprends l'attitude de joueur qui essaye d'haranguer un petit peu ses coéquipiers, mais de là à marcher et à râler, ça envoie pas le bon message. Ça envoie pas le bon message aux jeunes qui viennent d'arriver, ça envoie pas le bon message à tes coéquipiers, ça envoie pas le bon message à tes fans. Alors certes, après tu viens montrer l'écussion, tu montres que t'es investi au club, mais quand même, attention, moi je te regarde et je vais attendre que tu continues et que tu prouves que t'es au niveau que tu dois être. Donc attention à l'attitude. Ce que j'ai moins aimé, c'est l'impact de Ozo et Fédé en première période. J'en ai déjà parlé. Ozo, il a été mis en faux neuf. Je ne sais pas si c'est sa place, en fait. Faux neuf, un peu à casser entre les lignes. Bon, il a été présent, mais au final, en faux neuf, on finit à 1-0. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir quand Prince est rentré? Donc voilà, c'est un vrai attaquant, solide, grand, qui peut aller chercher une tête sur un corner. Donc, à suivre. J'aimerais bien voir que l'impact de Dozo et Fédé, en tout cas sur la première période, à point d'interrogation. Et ce qui me donne, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on n'ait pas eu de vrai neuf. Alors certes, le football moderne, on parle beaucoup de jouer en faux neuf. C'est le cas avec des Kylian Mbappé, c'est le cas avec des Olivier Giroud. Bien que Olivier Giroud, il est, pour moi, ce soit le seul vrai neuf avec Karim Benzema, si on doit faire un petit parallèle. Mais voilà, un faux neuf. Non, je suis pas convaincu. Donc à surveiller pour les prochains matchs. Et moi, je suis personne. Hein. On s'entend bien que si le coach Herdman, et j'ai beaucoup de respect pour lui, il a décidé de jouer en faux neuf, c'est qu'il y avait de la place de jouer en faux neuf. Il a regardé aussi ce qu'il fallait. Donc ça a fonctionné, parce qu'au final, on prend les 3 points. Là où je voudrais, ce que j'ai encore moins aimé que d'habitude, et là je vais pinailler parce qu'on a quand même pris 3 points, c'est cette attitude de Lorenzo. J'ai détesté cette attitude de Lorenzo. Et puis j'ai eu aussi 80 minutes de stress. 80 minutes de stress ou quand on marque le but à la 80e par Lorenzo avec le golazo, c'est la délivrance. C'est la délivrance dans le sens, c'est tout le stade qui chavire, c'est tout le stade qui va vers le bord du terrain. Alors quand je dis bord du terrain, c'est que il y a un mouvement de foule qui apparaît et ça se lève. On a l'impression que ça avance, mais non, ça se lève, ça secoue les écharpes. Ça tire les feux d'artifice par le club. Mais voilà, moi j'ai stressé pendant 90 minutes, donc c'est pas bon pour mon rythme cardiaque, c'était pas bon pour toutes les personnes qui étaient là, 20-25 000 qui étaient là au stade. Notre niveau de stress était élevé. Tout ça pour résumer, en tout cas, 3 points, bravo. Il y a une expression qui dit faisons confiance dans le processus. Je suis absolument dans cette logique, je vais faire absolument confiance au processus et je vais faire confiance à nos joueurs du TFC. Voilà, ça ferme la page un peu TFC. On reviendra à soccer après le hockey, mais voilà, moi les amis, on était sur place, on continuera à vous faire vibrer, je vous raconterai un petit peu tout ce qui se passe avec le Toronto FC. J'ai bon espoir, à suivre. On va passer du terrain à la glace. On va parler des Toronto Maple Leafs. Donc il y a eu 4 jeux. Là, les Toronto Maple Leafs, si vous voulez, on est à 18 matchs. Il reste 18 matchs de saison régulière. Il y a eu 4 jours de pause où les joueurs ont probablement pu retravailler, se reconcentrer, et ainsi de suite. Donc 18 matchs de hockey, il en reste beaucoup, il reste quand même encore beaucoup à vivre, hein, jusqu'au 17 avril. Le dernier match, ce sera contre Tampa Bay, mais entre maintenant et le 17 avril, ça nous laisse un bon mois pour voir un peu ce qui va se passer. Alors on va regarder un peu le classement. Toronto est 3e de la division Atlantique. C'est pas mal, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, et je vous le dis entre vous et moi, là, à part un cataclysme mondial, ça risque pas de ne pas bouger. Okay, on est à 84 points, on a enchaîné une fiche de 7-3-0. Il y a de très, très, très fortes chances que la 3e place soit acquise. Okay, ça voudra dire qu'on va devoir jouer soit contre les Bruins, soit contre les Panthers. Et donc à surveiller, parce que c'est ceux qui sont devant nous au classement, donc à surveiller, mais vraiment à surveiller. Donc à surveiller, nous en tant que partisans ou fans, mais voici moi les choses sur lesquelles il faudrait qu'on ait une discussion. Parlons du gardien de but. Gardien de but numéro 1. Qui, selon vous, doit être numéro 1 de cette équipe pour aller en play-off? Donc, il y a de fortes chances. Quand je dis ça, j'espère que je ne vais pas porter la poisse, mais Toronto va très probablement, pour la 3e fois consécutive, aller dans les play-offs et pour la 3e année consécutive, aller au-dessus des 100 points. Donc, pour aller dans les play-offs, il faut y arriver avec une équipe. Et quand je dis y arriver avec une équipe, il faut y arriver avec une équipe qui est prête physiquement, mais qui est également prête mentalement. Donc, le gardien numéro 1, Joseph Woll. Parlons de Joseph Woll. Si toutefois on doit jouer contre Boston, il a eu les 2 départs. Malheureusement, il a perdu les 2 sur le même score, 4-1. Donc à suivre. Alors après, il a été blessé. Il a eu 3 mois sous blessure, je comprends. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il est revenu? À discuter. De vous à moi, là, il y a de très très fortes chances que ce soit lui le numéro 1. Mais est-ce qu'il est suffisamment solide pour jouer contre un Boston ou contre la Floride? C'est la question que je me pose. Donc il faudra qu'on statue là-dessus, et que dans les prochains 18 matchs qui vont arriver, il faudra voir s'il y a moyen que Joseph Woll puisse arriver à faire ce qui, en tout cas, à prouver qu'il est capable. Ensuite, Samsonov. Ok, Samsonov, on en parle aussi. Il a retrouvé son jeu. Il a eu de bonnes performances. On en avait parlé dans des précédentes émissions. Le chantier gardien de but était difficile. Donc lui maintenant qu'il a retrouvé son jeu, lui qu'il a retrouvé un peu ses performances, il a retrouvé la confiance et il a aussi retrouvé les possibilités de fonctionnement et d'assurance au sein de son équipe. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est dans l'esprit? Où est-ce qu'on en est de tous les jours? Donc lui va dire, moi je me sens bien, moi j'ai fait des bonnes performances, et au-delà d'avoir fait des bonnes performances, je veux une place de numéro 1. C'est logique, il veut une place de numéro 1 pour s'assurer que ils puissent prétendre et jouer les playoffs ou les séries. Donc, grosse concurrence à venir sur le poste de gardien de but. Moi, je vais surveiller ça. On vous tiendra au courant. Surveillez ça et vous aussi de votre côté, et tenez-nous au courant. Alors, l'autre sujet sur lequel il faut qu'on discute, c'est les trios. OK ? Donc, vous l'avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis. Mitch Marner, il est blessé au bas du corps. OK ? Bon, ça a l'air mineur. Néanmoins, il est blessé, donc il va se remettre à niveau. On a hâte qu'il revienne dans le trio avec Austin Matthews. Et évidemment, on a hâte que ces deux-là puissent œuvrer ensemble. Mais là où j'ai une question, c'est sur le côté gauche. Le côté gauche, il y a le petit rookie, le jeune là, que Toronto est allé chercher, Matthew Nyes. Bon, la vérité, c'est que 11 buts et 15 passes décisives. Alors, c'est bien, pas bien. Pour un rookie, on aurait pu prétendre à mieux, on aurait pu espérer mieux également. En réalité, il a fait notamment des très très grosses performances, il a sorti des très gros matchs et en plus de ça, contre des grosses écuries. Donc le rookie, aligné dans les trios, point d'interrogation, mais je pense qu'il aurait sa place. Ça c'est juste mon avis, ok ? Ensuite, Tyler. Hey Tyler, je sais que j'ai parlé de toi la dernière fois. Tyler Bertuzzi, bon, il va avoir du temps de jeu très probablement pendant la récupération de Mitch Marner. Il est pour moi en manque de réussite. Il est en manque de réussite clair parce que il n'est pas au niveau de ce qu'il est capable de produire. Et ne pas être au niveau de ce que tu peux produire, en soi, ce n'est pas très grave. Néanmoins, il faut que mentalement, tu sois prêt. Prêt pour quoi ? Prêt pour aller en saison... Prêt d'aller en série. Donc, on se souvient qu'il avait fait des grosses performances l'année dernière dans les séries. Alors certes, il était peut-être avec un autre chandail. Mais néanmoins, pour moi... Tyler, il a quelque chose à prouver. Et s'il a quelque chose à prouver, il faut qu'il le prouve là, dans les prochains 18 matchs, pour avoir une place, ou en tout cas prétendre à une place, et avoir une rotation dans les trios, trios d'attaque notamment, et puis s'assurer que le coach lui fait confiance. Alors, je ne dis pas que le coach ne lui fait pas confiance, mais s'assurer en tout cas de pouvoir être à un niveau de jeu tel qu'il puisse avoir un impact lors des séries. Le prochain sujet pour moi, les amis, c'est les duos en défense. J'en ai beaucoup parlé dans mes émissions précédentes, mais la défense, c'était un chantier en tant que tel parce qu'on était capable de marquer des buts, mais on n'était pas capable de garder l'avantage de ces buts-là. Alors, ça s'est joué parfois à un but, ça s'est joué à deux buts sur un filet qui était complètement désertique. Ça, en soi, c'est pas très grave. Mais quand on n'est pas capable de garder un score, pour moi, j'avais un problème. Donc, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu des choses qui ont été faites. Maintenant, si on doit se projeter et aller dans les séries, Joel Edmondson, pour moi, est-ce qu'il est suffisamment solide, est-ce qu'il est suffisamment méchant? Alors certes, il a une réputation pour lui, mais est-ce que c'est suffisant pour aller défier les Boston Bruins ou les Panthers de la Floride? Je ne le sais pas. Pour moi, c'était un gros point d'interrogation. Donc, il a sa réputation. C'est voilà, il est solide, il est défensif, il peut être méchant quand il a besoin d'être méchant. Alors, quand je dis méchant, c'est méchant en étant très agressif en termes de volonté de vouloir protéger la défense ou protéger la ligne d'en but. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Donc, c'est la question que je me pose. Donc, je suis pas coach et j'ai pas la prétention d'être coach. Mais en tout cas, c'est de là. Edmondson et Lubuskin vont avoir du temps de jeu dans les prochains 18 matchs, donc à se voir si ce duo peut avoir finalement la solidité, la méchanceté et puis évidemment les performances adaptées à ça. Même chose pour Morgan Rielly et Timothy, parce que de leur côté, voilà, ils vont avoir du temps de jeu, il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont capables de quoi ? Capables de pouvoir performer dans les séries. On a tous envie de rêver aux séries. Moi, je rêve aux séries, mais je rêve plus que le premier tour, on s'entend ? OK ? Donc le fait que on puisse aller rêver de monter en puissance dans les prochains 18 matchs, tester des choses, continuer à œuvrer, préparer mentalement, préparer physiquement qu'on est capable, pour moi, c'est ce que j'aimerais que le coach puisse œuvrer dans les prochains 18 matchs. Et puis, dans les duos en défense, il faut qu'on parle de Simon Benoit. Simon Benoit, selon moi, il a prouvé. En tout cas, il a prouvé qu'il pouvait prétendre à être dans la rotation. J'en avais parlé dans des émissions précédentes. C'est cool de le voir, notre petit francophone de l'équipe. Il peut prétendre, il a une place dans la rotation aujourd'hui. Pour moi, c'est un choix sûr dans la saison. Donc, il faut que ce soit un choix sûr dans les séries. Donc, si je dois résumer, il y a des choses à faire, il y a des choses à tester. La qualification étant quasi garantie, c'est l'adversaire qu'il faudra qu'on voit comment on va œuvrer par rapport à ça. Mais dans cette rotation, je veux voir un Simon Benoit de la saison. Un mec qui est capable d'aller chercher, prouver, montrer sa solidité. Puis je veux aussi, quand je dis solidité, je suis hyper sérieux. En fait, solide dans le sens mental, solide dans le sens défensif, avec une prestation solide. Et être simplement aussi être au niveau. Être au niveau, venir supporter les attaques, participer à tout ça. Donc à suivre. Moi, j'ai déjà hâte au prochain 18 matchs. Je me projette d'ores et déjà aux séries. Je pense que je ne suis pas le seul, mais prenons match après match. On aura le temps de discuter et de voir un peu où est-ce qu'on en est. Je rappelle qu'on est 3e de la division Atlantique avec 84 points. On joue donc demain. Donc à suivre sur toutes les prestations. Moi je suis super emballé en tout cas d'aller dans les séries. J'ai hâte, je vais être très honnête avec vous, j'ai hâte d'aller dans les séries. Quand je dis j'ai hâte vraiment, et à suivre. Donc le prochain match après 4 jours de repos, c'est contre les Flyers de Philadelphie. Donc à suivre, ce sera évidemment un match important, il en restera plus que 17 après, mais néanmoins retour aux affaires, donc à suivre pour les play off ou les séries. Allez, sans transition, on va revenir. D'abord, je vais vous parler. J'allais dire, on va revenir au soccer. Non, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous êtes accro à la boxe ou au UFC ou MMA. Moi, j'ai pris un petit peu la piqûre. Je ne sais pas vous là, mais il y a eu un match de UFC qui est venu à Toronto. Alors, on n'a pas eu de place, ni moi, ni Choc FM n'avons eu de place pour aller voir ce match-là, mais il y a eu un engouement. En tout cas, j'ai l'impression d'être tombé dedans, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique, mais j'ai l'impression d'être un petit peu tombé dedans. Il y a eu quelques combats qui se sont passés ces quelques dernières semaines, combats de boxe et de UFC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tenez-nous au courant. J'ai regardé beaucoup de boxe et beaucoup de UFC encore une fois sur ces quelques dernières semaines, avec Francis Ngannou qui a malheureusement perdu, qui est tombé KO contre Joshua, un petit français qui l'a complètement mis KO, et Francis était malheureusement à terre. C'était d'ailleurs triste de le voir comme ça. Et puis les UFC du week-end, le 299 pour être précis, avec un événement principal et le co-principal avec le français contre l'américain, le français qui fait partie de l'armée, qui arrive avec une très belle réputation, qui joue contre cet américain qui lui avait battu McGregor deux fois. C'est pas rien, c'était un beau candidat. Donc, malheureusement, le français a perdu. Et il a perdu. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est sur 5 rounds. Et j'avais dit, tenez-nous si on en parle. Et vous voyez, je suis déjà passionné, j'en parle déjà. Donc, bref, il a perdu sur le deuxième round, malheureusement par KO. Apparemment, il avait l'air de dire qu'il était un peu malade et qu'il avait tout donné pendant le premier. Et on avait tous bon espoir que Benoît Saint-Denis puisse faire ce qu'il faut contre Dustin. Mais il l'a fait, il a livré la marchandise, comme on dit, sur le premier round. Sur le deuxième round, il s'est complètement éteint. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on entend le coach qui lui dit: tu vas pas à la bagarre, tu vas pas au combat, tu vas pas chercher, prends le temps de réfléchir. Tu as gagné le premier round. Donc c'est pas à toi de faire le match. Première chose qu'il fait dans les premières secondes, il retourne au combat, il retourne à la bagarre, et malheureusement il se prend un coup qui est très très mal placé, puis ça enchaîne, il retourne à la bagarre, il reprend un deuxième coup, et là il est complètement KO, il tombe sur les fesses, et merci, au revoir, le match est terminé. Donc ça, c'était l'événement co-principal. Et puis l'événement principal, c'était le Vénézuélien contre l'Américain. Bon, voilà, le Vénézuélien qui était... qui avait perdu aucun match et qui avait jamais perdu un match ou jamais aucun KO contre l'Américain qui avait eu un seul KO dans sa carrière, c'était justement contre le Vénézuélien, donc grosse revanche. Néanmoins, c'est lui qui avait la ceinture et il l'a conservée sur la ceinture. Donc ça s'est joué par décision de l'arbitre, la décision était unanime. Il n'y a pas eu de KO sur les 5 rounds. Néanmoins, l'Américain a fait tout ce qu'il fallait. Vous pouvez regarder, c'est intéressant. Donc si vous aimez le MMA ou si vous aimez UFC ou si vous aimez la boxe, tenez-nous au courant, c'est intéressant de voir si on pourrait en faire une petite chronique régulièrement. Un match à venir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, Mike Tyson va sortir de sa retraite pour avoir un combat contre Paul Logan, qui est le YouTuber boxeur. Donc à suivre, ce sera probablement au mois d'avril, je me souviens plus en tête, alors c'est pas très probablement, c'est sûr que c'est au mois d'avril. Donc Mike Tyson sort de sa retraite, 50 ans ou plus, 58 ans je crois, enfin quelque chose comme ça, contre le YouTuber qui a 38 ans. Donc il y a deux décennies d'écart, il va falloir, je sais pas combien d'argent sont sur la table pour parler de ça, mais je suis pas convaincu que c'est pas en train de tuer le sport de la boxe. À suivre en tous les cas. Sans transition, on va parler de Ligue des Champions et de soccer, parce que c'était quand même l'actualité, en tout cas récente, des derniers jours. Il y a une statistique que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu deux grosses journées entre hier et aujourd'hui. Entre les deux grosses journées, il y a un fait rarissime qui s'est passé, c'est que, vous savez, à la fin du match, c'est 90 minutes. S'il n'y a pas de vainqueur en 90 minutes, on part en temps additionnel, donc c'est deux fois 15 minutes, et si à l'issue des prolongations, il y a encore personne qui a gagné, on part sur les tirs au but. Ben, fait rarissime, depuis 2016, qui était la finale de 2016, on n'a pas eu une session de tirs au but, on en a eu deux. Une hier et une aujourd'hui. Alors pour les fans d'Arsenal, vous allez être contents. Pour les fans de Porto, un peu moins. Donc Arsenal, qui avait perdu le match aller 1-0 à Porto, venait défier ou redéfier Porto pour le match retour, en match de la deuxième manche, match retour de la Ligue des Champions. Arsenal a égalisé, puisque en fait en cumulé il y avait 1-0 à l'issue des 90 minutes, un but de Trossard, et donc le match va au tir au but. Et là, bravo au gardien de but Raya, qui a définitivement pris la place de Ramsdale, bravo à lui. Ça finit 4 buts à 2, 4 pénaltys marqués à 2, donc grosse performance. Il y a une petite polémique qui est en train de naître pour les fans d'Arsenal ou pour les fans de Porto. A priori, et je ne vais pas moi-même contribuer à la rumeur, mais a priori il y aurait des mots échangés entre Arteta, qui est le coach de Arsenal, et Sergio Conceição, qui est le coach de Porto, à suivre. En tout cas, si ça s'avère vrai, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir. On aime voir juste du beau match, des beaux résultats, et voir un peu tout ce qui a pu se passer du bon côté d'Arsenal. Donc Arsenal qualifié pour les quarts de finale. L'autre match d'hier, c'est le FC Barcelone qui affrontait Naples. Naples avait gagné le match aller. Le match retour était au FC Barcelone, au Camp Nou. Beaucoup de critiques ont été à l'égard de Xavi et du FC Barcelone à l'issue du match aller. Naples avait gagné le match à 1-0. Non, pardon. Attention, il y avait un partout. Donc tout à faire pour FC Barcelone. Et au score cumulé, au final, 4-2, le FC Barcelone a gagné hier, 3-1. But de Fermín López, but de João Cancelao et de, évidemment, l'incontournable Lewandowski. Donc Barcelone est qualifié pour les quarts de finale, ce qui est fait rarissime. Je vais vous parler d'une chose, d'une grosse statistique. C'est la première fois qu'ils reviennent au niveau des quarts de finale en 4 ans. Si vous avez écouté la conférence de presse d'après match, beaucoup de personnes avaient parlé des clowns du FC Barcelone. Xavi en a d'ailleurs fait référence dans sa conférence de presse d'après match. Donc c'était assez rigolo. Il est un peu chambreur, le père Xavi. Donc attention. Petit détail également, Lamine Yamal et Paolo Kubansi sont jeunes puisque c'est 16 et 17 et ils sont rentrés en jeu et c'est eux hein, finalement le futur du FC Barcelone et ils ont fait d'ailleurs une très belle prestation, une grosse performance des jeunes de FC Barcelone qui s'en vont en quart de finale. Les matchs du jour, Dortmund contre le PSV Eindhoven en Hollande. Dortmund qui gagne 2-0, ce qui fait un score cumulé de 3-1, donc il n'y a pas eu photo comme on dit. But de Sancho, et oui Sancho, pour les supporters de Manchester United, si vous avez bien entendu, il avait été de Dortmund vendu à Manchester et de Manchester il se passe quelque chose avec l'entraîneur, ils ne peuvent pas s'entendre bien comme il faut, on va dire qu'il y a une grosse mésentente entre les deux. Sancho a été prêté à Dortmund et donc il est revenu, il a marqué dans les premières minutes et puis le deuxième but a été marqué par Reus, marqué dans les arrêts de jeu. Donc tout ça pour dire que 2-0, belle victoire de Dortmund qui lui aussi est qualifié pour les quarts de finale. Une petite conséquence pour les Français qui nous écoutent, les Français de France qui nous écoutent, la France gardera à titre maintenant sûr et 100% sûr sa 5e place au classement de l'UEFA pour l'année prochaine. Donc c'est très bueno ou très bon, le billet en tout cas pour Dortmund est validé, c'est une très 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 bonne chose. Et puis le dernier match du jour, c'est l'Atlético Madrid contre l'Inter de Milan en Italie. 2-1, c'est le score à l'issue de la rencontre. Et quand je dis l'issue de la rencontre, c'est l'issue de la rencontre après prolongation. Parce que figurez-vous qu'évidemment, l'Inter avait gagné 1-0 chez eux, à San Siro, et l'Atlético Madrid devait évidemment marquer ces deux buts-là pour gagner. Malheureusement, l'Inter a marqué lui aussi de son côté. Donc on notera une erreur de Benjamin Pavard dans les premières minutes, ce qui a bien permis à Antoine Griezmann d'aller chercher le but que tout le monde a voulu, en tout cas qui a donné l'espoir. Et puis ça se finit au tir au but, là encore. Donc au tir au but de l'Atlético Madrid, 3-2. Oblak, le gardien de but de l'Atlético, a fait un travail extraordinaire. Bravo à lui. Serein. Ou alors les tireurs. Alors c'est toujours un art difficile hein, à tirer des pénaltys parce que c'est du 50-50. C'est souvent le tireur qui a l'avantage. Mais là, Oblak, soit les pénaltys étaient mal tirés, soit ils étaient. Ou alors simplement Oblak était bon. Ce que je vais vous dire, c'est que pour moi et selon moi, Alexis Sanchez, qui a joué un peu partout dans les grands clubs en Europe, Arsenal notamment, a très mal tiré son premier penalty, ça a mis en confiance le gardien de but. Et puis le dernier penalty qui pourrait ou qui aurait remis un peu d'espoir à l'Inter pour revenir un petit peu au score, c'est Lautaro Martinez. Il a tiré, l'Oblak n'a pas eu rien à faire, il a tiré simplement probablement à 3 mètres au-dessus de la barre transversale. Donc je ne sais pas s'il a pris la balle trop par le bas. Bref, j'ai envie de vous dire, moi qui suis français, et pour tous les Français qui nous écoutent, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Et je m'excuse auprès de tous les supporters de l'Inter de Milan, mais il y a encore ce petit côté amertume de la Coupe du Monde. Il a tiré trop haut, alors que l'Argentine avait gagné au tir au but en finale de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est pas passé pour toi, cher Lautaro. On verra ça l'année prochaine. En tout cas, ça envoie l'Atlético Madrid en quart de finale. Je vais rappeler les qualifiés parce que ça s'est passé sur 2 semaines. Donc, Arsenal, évidemment, on en a parlé. Le FC Barcelone, on en a parlé aussi. L'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Les autres qualifiés de la précédente semaine, de l'exercice précédent, c'est le Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid et bien évidemment le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort pour les quarts de finale, puisque ça va jouer avec ces 8 équipes, aura lieu le 15 mars, donc vendredi. Je pense que ça va être à l'heure du déjeuner ou l'heure du midi. Donc à suivre pour les tirages au sort. En tout cas, ça nous permet d'avoir des quarts de finale très alléchantes, à voir quelles seraient les bonnes choses. Moi, je vais vous dire tout de suite, j'ai une attente. Mon attente, c'est le PSG qui rencontrera Arsenal. Tout simplement parce que voilà, j'aime beaucoup Arsenal, j'aime le côté de tous les Frenchies qu'il y a pu y avoir à Arsenal. Et vu le match d'Arsenal contre Porto cette semaine, je pense que le PSG a matière à pouvoir jouer contre eux aussi. J'aimerais éviter évidemment les Manchester City, j'aimerais éviter les gros comme le Bayern. Là, pourquoi pas le Real Madrid, parce qu'on sait que Kylian Mbappé va très probablement aller vers le Real Madrid l'année prochaine, donc ce serait à surveiller. Voilà, ça s'arrête là pour nous. En tout cas, j'ai passé une très très bonne soirée avec vous. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir. On a parlé plein de choses. On en reparlera encore de plein de choses après. Je vous fais un énorme gros bisou. Et profitez bien de votre semaine de relâche en famille. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit bien évidemment mercredi prochain sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour ma part, c'est fini. Je vous laisse avec Fragnol, qui est l'émission qui arrive après. Et puis, hasta la vista. Merci, gros bisous à toi et gros big up à Nathalie encore une fois de plus. Gros bisous à tous, à très vite.